Les nuits de France Culture.
Entre les années 1950 et 1960, de nombreux artistes, intellectuels et scientifiques se livrent à l'expérience des drogues hallucinogènes ou psychédéliques. Dans ce registre, les noms de Henri Michaux ou Aldous Huxley sont bien connus. De fait, ces deux auteurs ont publié des écrits autour de ces expériences qui ont marqué plusieurs générations de lecteurs. Ces écrits ont en commun de s'attarder sur la dimension visuelle des hallucinations provoquées par ces psychotropes. Car ces substances génèrent des déformations visuelles et font apparaître des motifs, des images, des couleurs. Images et couleurs, c'est le titre de l'émission que vous allez entendre dans un instant, le 8e épisode d'une série de 10 émissions de René de Saulier autour des plantes divinatoires et autres champignons hallucinogènes pour l'antenne de la RTF en 1963.
La radiodiffusion télévision française présente La liberté coupable. La liberté coupable, troisième série. Plantes divinatoires, champignons hallucinogènes, une suite d'émissions composées par René de Saulier avec le concours de Jacqueline Harpet. Aujourd'hui, images et couleurs avec Charles Duitz, texte lu par Roger Blin. Assistant René Albach, réalisation Pierre Barbier.
Folklore, fête, calendrier au Mexique. Nous sommes au mois de septembre et la grande année commence d'abord par la célébration de la fête de l'indépendance entre le 13 et le 16. Tout Mexico est actuellement en fête. Les cérémonies qui se situent sur la grande place entre le palais du gouvernement et la cathédrale attirent toute la ville. Les personnages sont masqués et chacun est véritablement en fête en attendant la célébration du cri de l'indépendance. Le cri ayant été jeté par le président de la République, tout d'un coup, les salves commencent ainsi qu'une série de feux d'artifice. Nous retrouvons désormais dans le Mexique constamment ce goût pour les couleurs et particulièrement pour les couleurs durant la nuit. En octobre, d'autres fêtes interviennent, des fêtes de Saint-François d'Assise à Iguala ou à Zapopan. Il y a là une série de cérémonies autour de l'église, sur la place publique, durant lesquelles les Indiens vont donner libre cours à leur sens du costume et les fleurs jonchent à profusion soit les chapelles, soit les cathédrales. Mais c'est plutôt dans la vie populaire que l'ensemble des objets et des vêtements constitue très nettement une fête et pour les yeux et pour les mains. Si l'on détaille la moindre poterie, un sens floral qui caractérise la formation des éléments, d'autres figurines se prennent sur des chandeliers, et les chandeliers mexicains sont éclatants de couleurs. Les métépecs, par exemple, ont parfois un mètre de haut. Imaginez un très grand arbre, toujours violent dans ses couleurs et dans ses feuilles. D'autres objets, enfin, sont singuliers. Il s'agit des coupes à parfum de la vallée de Oaxaca, coupes tripodes. En fait, nous retrouvons là l'équivalent du sablier à encens, cet encens étant le copal, et dans la nuit de la Toussaint, les Indiens brûlent dans ces coupes la fameuse résine qui leur sert d'encens. L'on commence à honorer les morts, et vous savez combien la mort au Mexique est sujette à de nombreuses représentations, à la fois caricaturales et grotesques. Toujours très colorées, qu'il s'agisse de sucreries blanches et noires, on voit parfois des orchestres de squelettes, et l'on trouve ainsi le vieux rite chamanique altaïque, le chaman devant à tel moment reconstituer ses os et former le squelette, et selon nous la parenté est très nette entre ce rite de la mort au Mexique et le rite du chaman en pays altaïque, les figurines donc sont nombreuses, extrêmement variées et à notre connaissance il n'y a pas d'équivalent dans le monde. D'autres objets attirent notre attention. D'abord des dessins dans la broderie et des fils de couleurs mêlés aux chignons des femmes, aux chignons serpentins en usage dans la Sierra de Puebla. Ainsi, étoffes et broderies font un usage comme tumultueux de la couleur, et même la besace des Indiens est piquetée. D'autre part, chez les Huicholes, qui pratiquent les rites du peyote, on trouve un goût extrêmement caractérisé pour les perles. Enfin interviennent, ici et là, et même près de Huautla, les masques de danse, les masques cérémoniels, avec leurs fêtes de plumes extraordinaires. Vous avez dû voir ces images qui représentent une tribu indienne du Mexique lors d'une danse, et l'importance de ces masques est considérable puisque la hampe, la partie supérieure au-dessus de la tête, a parfois plus de 50 cm de haut. Toutes ces couleurs se retrouvent dans les images suscitées par les champignons, et le professeur M. en conclusion à une étude écrit.
L'art mexicain d'autrefois, dans certaines de ses réalisations monstrueuses, n'aurait-il point été influencé par les fantasmes dus aux champignons sacrés dans lesquels l'artiste aurait ainsi puisé son inspiration?
L'art mexicain a en effet été influencé par la pratique des plantes divinatoires et des champignons hallucinogènes. On le sait depuis les découvertes et les explorations au Mexique de Gordon Vasson et de Roger M. Plus d'un lien nouveau paraît. Ainsi, entre art plastique et champignons hallucinogènes, puisque sur telle fresque, l'on retrouve ceux-ci, figurés par de petits cercles au bord de l'eau. Autre lien entre, si vous voulez, les modifications subies, constatées et les expériences enregistrées, entre les comportements qui font l'objet d'analyses et de descriptions dans la mesure où les sujets s'y prêtent et dans la mesure également où leurs notes permettent ensuite de tirer parti et conclusion. Le texte que vous allez maintenant entendre est de Simone de Beauvoir dans La force de l'âge. Il concerne l'expérience de Jean-Paul Sartre.
Il s'intéressait évidemment aux rêves, aux images hypnagogiques, aux anomalies de la perception. En février, un de ses anciens camarades, le docteur Lagache, lui proposa de venir à Sainte-Anne se faire piquer à la mescaline. Cette drogue provoquait des hallucinations et Sartre pourrait observer le phénomène sur lui-même. Lagache l'avertit que l'aventure serait peu agréable. Cependant, elle ne comportait aucun danger. Sartre risquait tout au plus de présenter pendant quelques heures des conduites bizarres. En fin d'après-midi, comme nous en étions convenus, je téléphonais à Sainte-Anne. Sartre me dit d'une voix brouillée que mon appel l'arrachait à un combat contre des pieuvres où certainement il n'aurait pas eu le dessus. Il arriva une demi-heure plus tard. On l'avait étendu sur un lit dans une chambre faiblement éclairée. Il n'avait pas eu d'hallucination, mais les objets qu'il percevait se déformaient d'une manière affreuse. Il avait vu des parapluies vautours, des souliers squelettes, de monstrueux visages. Et sur ses côtés, par derrière, grouillaient des crabes, des poulpes, des choses grimaçantes. Un des internes s'en était étonné. Chez lui, avait-il raconté, quand la séance avait été finie, la mescaline avait eu des effets tout différents. Il avait gambadé dans les prairies en fleurs parmi de merveilleuses houris. Peut-être, s'il s'était attendu au lieu de cauchemar à ses délices, Sartre se serait-il orienté vers ses visions paradisiaques, se disait-il avec regret. Mais les prédictions de Lagache l'avaient influencé. Il parlait sans gaieté, tout en observant d'un air méfiant les fils téléphoniques qui couraient sur le tapis. Dans le train, il se tut beaucoup. Je portais des souliers en lézard dont les lacets s'achevaient par des espèces de glands. Il s'attendait à les voir, d'une minute à l'autre, se transformer en gigantesques scarabées. Il y eut aussi un orang-outan, suspendu sans doute par les pieds au toit du wagon, et qui collait à la vitre une face grimaçante. Le lendemain, Sartre allait très bien et me reparla de Sainte-Anne avec détachement.
Sartre donc expérimente la mescaline, produit dérivé du peyote. À présent, nous revenons à la psilocybine, dérivée, elle, des champignons hallucinogènes.
L'expérience visuelle de chacun et l'état, les troubles somatiques, psychiques et intellectuels provoqués par la psilocybine ont fait l'objet d'une thèse extrêmement remarquable de Mademoiselle Quétin, qui a été étudiée par le professeur M. Cette thèse a paru en 1960 et elle fait état d'expériences faites sur les sujets eux-mêmes en état d'expérience. Il est évident que chacun, sous l'effet du produit ingéré, se trouve dans un état différent. Quels sont donc les troubles constatés tout au long de l'expérimentation que chacun est amené à faire sur lui? Les troubles relevés sont très nets. D'une part, dilatation des pupilles. Il est évident que la plante détermine une hyperesthésie des bâtonnets. Dilatation des pupilles, ralentissement du pouls, hypotension, congestion faciale, asthénie, relative somnolence, soudaine paralysie qui semble prendre du haut de la poitrine jusqu'aux pieds, exacerbation de la faim, est-elle due au jeûne, nous l'ignorons, trouble de la vue au sortir de la période noire, trouble du sens olfactif et bien entendu de l'écriture si l'on essaie de se livrer à des essais de graphie hasardeuse dans la nuit. Autre forme de trouble, hallucinose colorée, parfois délirante, dit le professeur M, vision de construction grandiose signalée à plusieurs reprises et, à certains moments, euphorie dans la période de détente et crispation dans la mesure où l'on redoute d'affronter la plongée. Il est évident que cet ensemble est coupé de bouffées d'angoisse et coupé d'une série d'appréhensions. La salle dans laquelle on se trouve semble très grande. Très nettement interviennent des dédoublements, des dislocations d'objets, des modifications apparentes de la pesanteur et, dans le même temps, comme l'impossibilité de retrouver sa propre main. Donc, il y a là une série d'alternatives, de modifications sensorielles extrêmement graves ou inquiétantes, alourdissement, engourdissement, allègement, on ne trouve plus son corps et, dans le même temps, distorsion, aplatissement, le corps est image. Indéniablement, l'on est entré dans cette sorte de sphère, ou plutôt d'ovoïde, en rotation, en lente rotation, et plus d'une fois, l'on risque d'être attiré par le puits, d'être pris dans le rythme vertigineux des images, d'être attiré par l'eau profonde. Donc, dans cette série de phosphènes ou de scintillements lumineux, le corps est tout d'un coup prisonnier, comme pris dans un réseau, dans tout un filet, afin qu'il ne soit plus que dans le domaine des images.
Voici à présent le protocole, le compte-rendu, établi à propos des premières peintures obtenues chez un artiste sous l'action de la psilocybine.
Volma et Robert, la psilocybine. Monsieur Pierre-Xavier Lafitte, décorateur de métier, est un jeune peintre de paysages et de portraits à tendance figurative dominante. L'expérience eut lieu dans son atelier. Nous lui avons demandé de choisir parmi ses œuvres un paysage qui lui plaisait et d'en faire une copie sous l'action de la drogue. Début de l'expérience à 12 heures. Prise de 10 mg de psilocybine. Il prépare son matériel, ses pinceaux et ses tubes de gouache et commence à mettre en place la composition qu'il désire copier. Tout en dessinant, il exprime ses préoccupations habituelles, recherche de certaines harmonies, de certains mélanges et oppositions de couleurs. Il est fatigué, n'a aucune envie de peindre, place une couleur jaune sur une grande partie de sa feuille, n'est pas content, ne sait pas ce qu'il va faire, n'a pas d'idée, se sent obligé à accomplir un effort. À 12h35, la drogue commence à agir. Son visage est congestionné. Sa pupille est en mydriase. Il attend que les couleurs sèchent sur sa feuille. C'est pendant cette attente qu'il ressent comme un étau en serrant son crâne, étau en forme de diapason. Cet étau est la réplique exacte de la place laissée en blanc sur sa peinture. Il couvre cette surface de bleu pâle. Il se plaint de lassitude, de vertige, a quelques nausées, puis se sent mieux, est subeuphorique, bâille. Il a une légère dysarthrie et une roussité de la voix. Sa cigarette a un goût sucré. Il n'a qu'un souci, ne rien faire. Il voit un coin de son papier distendu, surtout quand il s'amuse à le fixer. Les jaunes prennent un éclat plus vif, ont plus de relief, se décollent du papier pour venir à lui. Une salivation apparaît. Il a toujours envie de ne rien faire, ne pense à rien. C'est bien la première fois que cela lui arrive. C'est à ce moment qu'apparaissent les modifications du schéma corporel et de la structure de l'espace. Il ressent un phénomène de lévitation. Il flotte, n'a plus la notion de la pesanteur. Il est plus grand que d'habitude, souple, délié. Il a envie de sauter, de faire des cabrioles, de marcher sur les mains. La pièce est tout à coup plus grande. Tout s'éloigne de lui, comme s'il regardait le monde par le gros bout de la lorgnette. Son papier est plus petit. Les objets et les personnages sont plus petits. Lui, il est immense. Il a grandi d'au moins 50 centimètres. En même temps que lui, les hauteurs et les profondeurs se sont allongées, dans les mêmes proportions. Il vérifie qu'il peut toujours passer sous sa porte sans se heurter la tête. Il le sait, mais le vérifie et en rit. Les verticales ont grandi, mais sans entraîner de déformation de la perspective. Les profondeurs subissent la même loi. Par contre, les largeurs ne sont pas modifiées. Pendant cette expérience, il ignora systématiquement toute notion de largeur, ainsi que toute notion d'horizontale dans ses dessins. Il regarde le paysage pris comme modèle. Ce paysage est plus beau. C'est peut-être une question d'éclairage. Il recommence à peindre. Ça m'est égal. J'ai envie de m'amuser et d'être amusant. Il a les plus grandes difficultés à reproduire son modèle. Continuer d'observer les règles semble impossible. Je ne prendrai pas de cette drogue pour faire un chef-d'œuvre. Il essaie quelques mélanges, n'est pas satisfait du résultat. Il est ridicule, le pinceau à la main. Il le lave, s'assoit et se demande ce qu'il va pouvoir faire sur ce malheureux paysage avec des couleurs pareilles. Il ne sait plus peindre. Il regarde son modèle. C'est trop raisonné, je n'ai pas envie de raisonner. Il cache son modèle, observe la copie en cours, reprend ses couleurs. Ça se gâte, je me laisse aller à la couleur, je ne domine plus ma toile. Je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi stupide. Les couleurs sont exaltées. Le jaune lui paraît vulgaire, le bleu désastreux. Mais le rouge, quel éclat! Il est sonore. À 13h45, il abandonne l'œuvre commencée et s'égouache et cherche fébrilement dans son atelier de grandes feuilles de papier, ses pastels, ses encres de couleur. Je vais faire baver de l'encre sur du papier humide. Je ne sens plus ma force. Il place une feuille sur sa planche à dessin, mais cette fois dans le sens de la hauteur. Il rit parce que la planche est toute petite et que la feuille s'allonge, immense. Cette impression disparaît dès que la feuille est en place. Il passe sur elle une éponge imbibée d'eau. 13h50, il commence un personnage à la plume. À peine ce personnage esquissé, il étend à la main de la gouache bleue. La rapidité de la touche se voit sur l'œuvre. Puis il verse de l'encre noire du flacon sur la feuille et la fait couler. Il termine en projetant de l'encre avec sa plume. « Je peins pour m'amuser. Faites sortir les femmes et les enfants. C'est le cousin Léon. » Ce cousin était connu de sa famille pour ses prouesses amoureuses. Le sujet est euphorique et met le plus grand désordre dans son matériel. Pendant 1h20, il va peindre 29 œuvres, avec la plus grande dextérité, soit à une cadence moyenne d'une œuvre toutes les 3 minutes. 14h03, il projette de l'encre de Chine directement du flacon et l'étend sur la feuille, comme s'il faisait tourner une crêpe sur une poêle. Puis il étale à la main. Ça peut se passer de couleur. Puis il frappe la feuille de ses mains maculées d'encre de manière rythmée. « Je suis libéré, c'est un art d'instinct !» Il demande qu'on veuille bien ranger soigneusement ses œuvres pour éviter que l'encre ne coule. 14h25, il humidifie sa feuille avec son éponge et applique du pastel. Le pastel mouillé, c'est beau comme matière. Je n'avais jamais essayé cela auparavant. Il projette l'encre noire, puis trace de larges traits avec des pastels noirs, mauves et rouges. Il a plaisir à voir les couleurs, les utilise avec plus de liberté. Ah, c'est moi qui ai fait cela. Je n'y touche plus, c'est trop beau. J'ai l'impression d'être libéré des contraintes sociales et affectives. 14h38. L'effet de la drogue doit baisser, je commence à ranger mes affaires. Il projette deux taches d'encre jaune sur sa feuille mouillée, puis de l'encre noire. Il continue par l'application de pastels violet et rouge, et termine en projetant de l'encre noire avec la plume. Les couleurs me paraissaient plus gaies tout à l'heure, elles sont plus ternes maintenant. Il n'y a que les rouges. 14h50, sur sa feuille imbibée, il étale largement la gouache rouge à la main. Puis il projette deux taches d'encre noire. C'est la matière qui joue, et non moi. Je continue sur ma lancée, je ne ressens plus rien. Je commence à avoir de l'ordre. Que ce soit beau m'est égal. Je m'amuse, je fais les choses. Fin de l'expérience à 15h10. Lorsque l'on veut bien considérer les œuvres produites dans ce cas sous l'effet de la drogue, et celles habituellement exécutées par le peintre, on constate une profonde différence de style. Les unes sont figuratives, paysages, portraits et scènes, les autres non figuratives. Ce changement de style peut être analysé plus en profondeur. Pierre-Xavier Lafitte met de 1 à 3 heures pour faire une gouache, 3 heures et plus pour une huile. Il est préoccupé par les règles de la composition, par la science des mélanges et l'harmonie des couleurs. Il se sert de pinceaux. Ses recherches actuelles le portent à donner volume et profondeur par le seul jeu des touches colorées, c'est-à-dire de substituer une perspective de la couleur à celle des éléments linéaires. C'est une œuvre patiente, prise et reprise, demandant réflexion et raison, menée de bout en bout par un esprit qui vise idéal et perfection. Sous drogue, attitude, technique, matériaux et instruments sont nécessairement autres. Il emploie des couleurs acquises, encre, pastel, abandonne ses pinceaux et peint directement avec ses mains. Il découvre la vitesse. Il revit cette vérité de Picasso. La vitesse, c'est merveilleux.
Revenons au Mexique.
Il est évident que, dans l'atlas des couleurs, dans l'atlas des formes, ce qui a été remarqué en cours d'expérience, l'expérience étant faite dans les conditions voulues du rituel, ce qui a été remarqué et enregistré, la mémoire aidant ou certains films pris aidant, ne peut être en rien comparé à d'autres expériences après ingestion des produits chimiques ou synthétiques dont nous parlions. Mais revenons-en à l'atlas des couleurs et des formes qui résulte de l'ingestion des champignons. Durant la cérémonie nocturne, des observateurs vigilants restant dans l'ombre autour de nous veillent. En cas de crise violente, on s'empare de celui qui cède à la colère. Dehors, solidement encadré ou lâché dans la nature, il devra subir le temps du produit qui, généralement, ne déclenche pas la révolte ou la violence, mais... ainsi que nous l'avons dit, un état curieux, d'ivresse, d'images lumineuses, violentes, vives, contrastées, extrêmement aiguës, excessivement lumineuses, étincelantes, dès que l'on ferme les yeux, dès que l'on accepte la plongée. Le corps est image, les deux yeux, comme réunis, deviennent globes immenses, écrans, lieu de formation, il n'y a donc pas d'hallucination au sens psychiatrique du terme. Il y a image vue à l'intérieur du sujet et par l'atlas des images et des formes, l'on perçoit comme la genèse du monde et selon l'état d'assaise de chacun, quelques prédispositions intérieures aidant, à aucun moment n'interviennent des images grotesques, il est évident que vont dominer ces images précises, poétiques, et si peu narrative où défilent les monuments à la fois du pays connu, le Mexique, et à la fois de ce pays inconnu pour nous à ce moment-là, l'Égypte. On garde une mémoire parfaite, mais il est évident que l'on ne possède pour autant le film des images qui se sont déroulées. D'abord apparaissent des formes géométriques, angulaires, effilées, et ses formes, indéniablement, se retrouvent dans les dessins faits sous l'action d'un produit ou de l'autre. Ce que nous avons nommé les dessous de bottes d'algues non liées, donc l'océan des profondeurs, les dessous de bottes d'algues amassées, libres, flottantes, commencent par déterminer un mouvement vertigineux. Puis, toujours, dans cette curieuse botanique du fond des éléments, de l'eau, à prédominance d'algues, vertes brunes, une série de cupules aiguës, portées par de longues tiges, minces, acérées, triangulaires, coupantes, d'où peut-être ces dessins en osselets dans les graphies d'Henri Michaud, tiges flexibles qui ne sont pas sans rappeler les carex, plantes des marais dangereuses pour les mains imprudentes. La rétine n'est pas blessée par les fluorescences vives, mais complice, toujours dans l'attente de l'émerveillement, du très ocellé. Aux formes géométriques, très colorées, succèdent des sortes de structures architecturales. Est-ce sous l'influence des fouilles, des photos prises sous le soleil aveuglant, du séjour souterrain, du cheminement dans l'obscurité, nous ne le savons pas, mais très nettement prédominent ces architectures. Pyramides donc, et frises sculptées, l'on dit d'ailleurs que les champignons déterminent des sortes de visions plastiques, pyramides et frises qui très souvent ont pour couleur une dominante rouge rappelant celle de la brique. À tel moment, vers la phase orange, les images prennent une ampleur inattendue. Nous sommes au pied d'une pyramide, et c'est là peut-être où l'on pourrait trouver une explication du grouillement des combats chez Michaud. Nous sommes au pied d'une pyramide devant le grand escalier avant l'ivresse, escalier le plus abrupt, et devant cette aire se tiennent des gens comme assoupis, comme assommés, mais qui en fait reçoivent le boisseau d'images. Dans la grande aire, lumière d'ombre et de pénombre, grise, diamantine, on ne perçoit plus tout d'un coup distinctement les êtres. C'est alors que les scansions de la Sabina deviennent aiguës et une mélopée semble invoquer et conjurer, et cette fois la voix de l'un de nos traducteurs nous précise, la Sabina invoque le dieu vent. Nous sommes au cœur désormais du cristal et du diamant, dans l'air immense, une foule est là, non plus prosternée, mais sombre grappe anonyme, livrée au flux des images. À propos des images et couleurs, Charles Duitz, qui a longtemps séjourné aux États-Unis, qui a pu observer et pratiquer, veut bien nous dire quelles sont ses observations et veut bien préciser surtout quels sont les rapports qui peuvent s'établir entre images et couleurs.
Il est excessivement difficile de répondre à cette question parce que j'ai pris le peyote un très grand nombre de fois, malgré tout, je dois bien le dire, que chaque expérience est par définition totalement différente de l'expérience précédente. Parce que chaque expérience transforme durablement et profondément le psychisme, de sorte que c'est dans un certain sens un nouvel être qui fait l'expérience suivante. Sur le plan des images, j'ai vu de puissantes couleurs. J'ai vu, une fois sachant que c'était une image, dans la nuit, une assemblée de personnages solaires, pareils à des espèces de lions, je veux dire par la puissance, par la majesté, par une crinière de rayons, et qui semblaient s'élever dans une jubilation extatique. à laquelle je participais. Ceci, je le sentais, n'était pas une vision des anges, si vous voulez, tels qu'ils étaient, mais une image mentale de ce qu'ils étaient. Et il y a là une grande différence, parce que dans certaines expériences, on a le sentiment, ou plutôt la certitude, d'aller beaucoup plus loin que les images.
Voici relaté par Aldous Huxley quelques visions colorées provoquées par la mescaline.
Je sortis sous une sorte de pergola couverte en partie d'un rosier grimpant, en partie de lattes de 2 centimètres de largeur, séparées par les intervalles d'environ 1 centimètre. Le soleil brillait, et les ombres des lattes traçaient un dessin zébré sur le sol et sur le siège et le dossier d'un fauteuil de jardin qui se trouvait à l'extrémité de la pergola. Ce fauteuil, l'oublierai-je jamais? Là où les ombres tombaient sur le rembourrage en toile, des bandes d'indigo sombre mais resplendissant alternaient avec des bandes d'une incandescence si intensément brillante qu'il était difficile de croire qu'elles pussent être faites d'autre chose que de feu bleu. Pendant ce qui me parut être un temps immensément long, je contemplais sans savoir ce qui me confrontait. À tout autre moment, j'aurais vu un fauteuil barré alternativement de lumière et d'ombre. Aujourd'hui, le percept avait englouti le concept. J'étais si complètement absorbé à regarder, si abasourdi par ce que je voyais effectivement, que je ne pouvais avoir conscience d'autre chose. Le mobilier du jardin, les lattes, le soleil, l'ombre, ce n'était là rien de plus que des noms et des notions, que de simples verbalisations après l'événement, pour les besoins utilitaires ou scientifiques. L'événement, c'était cette succession de portes de fournaise d'un bleu d'azur, séparées par des gouffres de gentiane insondables. C'était indiciblement merveilleux, merveilleux au point d'en être presque terrifiant. Et soudain, j'eus un soupçon de ce que l'on doit éprouver lorsqu'on est fou.
Santo, 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 santo.
C'était La liberté coupable, 3e série. Plante divinatoire, champignon hallucinogène. Une suite d'émissions composée par René de Sellier avec le concours de Jacqueline Harpet. Aujourd'hui, Images et couleurs avec Charles Duitz. Texte lu par Roger Blin. Assistant René Albach. Réalisation Pierre Barbier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la RTF le 14 décembre 1963. À suivre.